C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On commence ce matin par un jugement qui a été rendu, je pense en Ontario, là, mais dans les Maritimes, mais peu importe, c'est un jugement qui force les villes à accepter les fameux campings d'itinérants dans la mesure où la ville n'est pas capable de donner des places de refuge à ces personnes itinérantes sur son territoire. Est-ce que c'est une bonne chose pour les villes ou une très mauvaise nouvelle? Luc?
Moi, je pense que le juge a erré. Parce que il fait un lien entre l'itinérance puis le nombre de places disponibles pour dormir.
Ouais.
Il y en a pas de lien. Premièrement, il y a 80% des itinérants qui sont pas itinérants à l'année. Ça, c'est une première donnée. Deuxième donnée, le nombre d'itinérants varie beaucoup selon les saisons. Troisième donnée, le nombre d'itinérants varie beaucoup dans les villes selon la permissivité des villes. Si, par exemple, on apprend que, sur la côte ouest, je vais donner des exemples que je connais plus encore. À San Francisco, c'est permis. À San Jose, c'est pas permis. Fait que là, tous les itinérants se ramassent à San Francisco. Si t'as le droit de faire du camping, tout le monde va aller là où t'as le droit de faire du camping. Là, les villes où t'as pas le droit d'en faire, il y en aura pas. Pour toutes ces raisons-là, c'est pas une bonne décision. Maintenant, on comprend l'humanisme qui est derrière la décision. L'humanisme, c'est dire, on met pas assez d'argent dans l'itinérance, puis il faut donner un minimum de service. Et là-dessus, il a entièrement raison. Une chose que tout le monde doit comprendre, il y a une ville dans le monde qui a réussi à éliminer l'itinérance, c'est Helsinki. Helsinki a réussi à éliminer les itinérances en faisant quoi? Un investissement de 500 millions dans du logement, de chambres et supervisé. Ils l'ont éliminé. Il y a une vérification tous les jours de la santé mentale des gens. Ils ont un suivi, ils ont un nom ici, ils ont des gens qui les suivent. Et ça a fonctionné, mais ça a coûté 500 millions.
Mais est-ce que, juste une question, est-ce que c'est la ville qui assume ça ou
Bonne question, je ne sais pas.
Okay.
Si c'est la ville qui a payé 500 millions, le gouvernement finlandais... Mais je peux te dire une chose, qu'il faut que ça soit le gouvernement. Parce que cette idée-là de mettre sur les épaules de la ville une situation qui est liée à l'évolution des drogues, notamment le fentanyl, puis des autres mix, les cocktails chimiques qui rendent les gens complètement dépendants. Deux, la santé mentale. Trois, la disponibilité du logement. La ville est pas capable de faire face à cet ensemble de fléaux. Elle n'est pas responsable de cet ensemble. Elle n'est pas responsable non plus de l'afflux d'itinérants. On dit qu'il y a des itinérants maintenant en région. Mais la plupart du temps, les itinérants en région, ils ne se tiennent pas dans les villes de 600 habitants, là. Ils convergent vers les grandes villes. Tu sais, va demander aux itinérants d'où ils viennent. Ils ne sont pas tous nés à Montréal. Ils ne sont pas tous nés dans le centre-ville, là. Donc, la ville peut pas faire face à ces fléaux-là toute seule, mais le juge a tort de penser que d'abord le camping va régler le problème, puis que deux, ça va une solution pérenne. Pour moi, le camping est un problème.
Nathalie.
Mais premièrement, il faut dire que le phénomène de l'itinérance, c'est pas un phénomène maintenant qui appartient seulement aux grandes villes. Les villes de taille moyenne au Québec sont à peu près toutes confrontées au phénomène de l'itinérance. À Granby, par exemple, il y a des femmes de plus en plus dans la rue, des femmes enceintes, imaginez, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas accès à un logement abordable, qui se retrouvent dans les refuges pour femmes. Avant de parler d'approche, il faut s'attarder à cette décision d'un juge de Kitchener, en Ontario. Cette décision, elle est méga importante. Et moi, contrairement à toi, mon cher Luc, puis je dis pas ça juste pour t'obstiner en ce lundi matin, là, mais moi, je pense que c'est une très bonne décision. Pourquoi? Parce que c'est cette espèce d'onde de choc, peut-être, qu'on avait besoin dans ce triste milieu qu'est l'itinérance pour que les choses changent. Parce que le juge a dit, et c'est méga important, beaucoup d'organismes communautaires pensent que ça va faire jurisprudence, que c'est un précédent, mais que ça va faire jurisprudence, c'est que le juge confirme un droit constitutionnel aux sans-abri, aux personnes qui vivent dans la rue, en disant que la Constitution confère un droit à se protéger lorsqu'on vit à l'extérieur. Alors, c'est une décision qui va très, très loin. D'ailleurs, Maxime Bergeron, qui écrivait dans la presse il y a quelques jours, dit « Les autorités de la Ville de Montréal est en train d'éplucher cette décision pour voir comment elle va composer avec ça. » Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça fait des années. Écoute, ça fait combien de décennies qu'on parle d'itinérance? Québec a adopté un plan d'action il n'y a pas si longtemps, malgré tous les plans d'action qui sont adoptés, malgré tous les millions qui sont investis, non seulement le problème ne se résorbe pas, mais au contraire, le problème devient de plus en plus criant. C'est pas simple, j'en conviens. Luc, t'as raison de parler d'Helsinki. Helsinki, là, en Finlande, c'est un ancien directeur de la maison Old Brewery, ou la mission Old Brewery, qui écrivait James Hughes dans la presse en février 2020, qui donnait l'exemple de Helsinki. Mais c'est pas vrai que la ville de Montréal ou les villes peuvent seules appuyer, c'est-à-dire non, mais... assumer ça. Mais Luc, pas ce que ça prend, c'est une volonté politique absolue. Tu comprends? Il s'agit pas de dire oui, c'est une priorité. Non! Puis il faut que tu changes complètement ton approche. Et c'est commencé dans certains refuges. Je permets, je vais terminer après. C'est les refuges maintenant, leur mission de base, c'est quoi? C'est d'offrir le gîte et à manger. Là, ce que de plus en plus de refuges font, c'est commencé à Montréal, Helsinki, c'est le cas. Maintenant, ils accompagnent les personnes dans la rue à trouver une autre alternative que vivre dans la rue. C'est sûr que ça commande des ressources, mais là, on est dans un tout autre changement d'approche et de paradigme.
Mais je voudrais entendre Luc là-dessus. C'est que ça fait plusieurs dossiers dont la Ville s'occupe et dont la Ville n'a pas la capacité de s'occuper. Le logement en est un, les armes à feu, c'en est un autre, puis l'itinérant, il peut faire un bout. Mais as-tu remarqué la capacité assez extraordinaire des gouvernements supérieurs de dire à la Ville, arrangez-vous avec ça, là?
Ben absolument.
Tu sais, pour avoir des photoradars, ça te prend une entente avec le ministère des Transports. Juste ça. Ça, c'est un tout petit exemple.
Non, mais ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est pour ça, Nathalie, c'est pour cet argument-là que je suis pas d'accord avec toi. C'est parce que... Est-ce que les gouvernements supérieurs vont dire, ah, OK, maintenant que ce règlement-là, cette décision a été prise par le juge, on va donner les 500 millions que ça prend, on va les donner, ah, ben oui, correct. Mais non! Ça fait des décennies qu'ils donnent pas. Ils donneront pas plus. L'itinérance, c'est le dernier de leurs soucis. Ça se passe dans des villes où ils sont pas élus. Ils sont contents. Puis tu dis, il y a de l'itinérance à Granby. Je suis correct qu'il y a de l'itinérance à Granby, mais il faut regarder proportionnellement combien il y a d'itinérance à Montréal par rapport aux autres villes du Québec. Même Québec, non, la ville de Québec, tu sais. C'est ici que ça se passe, là. C'est ici où la CAQ a aucun élu que ça se passe. Fait que, en grande partie. Ah, donc, c'est pas vrai que la décision... Puis moi, c'est ça que j'aime pas des décisions des juges. Je prends une décision, arrangez-vous avec. Premièrement, les itinérants, beaucoup d'itinérants, pas tous, mais une grande majorité, préfèrent de loin le camping à un refuge. Le refuge, faut que t'arrives là sobre. T'as pas le droit de consommer. Il y a des heures d'entrée, il y a des heures de sortie. Le camping, tu rentres dans ta tente quand tu veux, où tu veux, à l'heure que ça te tente. T'es pas obligé, t'es pas dans la rue à 7 heures du matin, là. Les refuges, là, tu te réveilles, tu prends ta douche, tu sors. Le camping, là, tu vas te lever à 11 heures parce que t'as passé la nuit dehors. Dans la vie, il y a des itinérants chroniques. Puis ces itinérants chroniques-là, faut leur trouver des solutions avec des chambres, avec du soutien, du support. Et c'est d'ailleurs ce que font maintenant toutes les institutions, Old Brewery, Accueil Bonneau, Maison du Père, etc. Mais il y a aussi des bombes. Faut pas arrêter le politically correctness, là. Faut pas se fermer les yeux, là. Il y a des bombes qui aiment ça.
Mais non, on va pas consommer. Tous les sauver, Luc, là.
Mais ces gens-là, ils vont s'installer dans un camping. Puis les campings, le camping, premièrement, moi, je suis contre parce que l'espace public, les gens qui habitent au centre-ville ont un droit à une forme de quiétude. C'est pas parce que tu as choisi le centre-ville qu'on va te priver de toute forme de quiétude. Si tu peux pas aller dans un parc parce que c'est occupé par des itinérants, le Mont-Royal, par exemple, la minute qu'on disait, OK, dorénavant, vous avez le droit de faire du camping. Ben, la marche sur le Mont-Royal, oublie ça. Et oublie ça le soir pour une femme seule, par exemple. Donc, là, ce droit à la quiétude, il existe pas juste en banlieue, là. Il existe au centre-ville.
Oui, je suis d'accord avec toi, Luc. C'est pour ça que cette décision va pousser les villes et les gouvernements à dire, oh, attends une minute, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas de l'Ontario, c'est Waterloo qui... En fait, toute l'histoire est partie de Waterloo qui voulait expulser des sans-abri avec leurs tentes. Et là, Waterloo, aujourd'hui, là, est en train de mettre en branle ce qu'on appelle les mini-maisons, des petites maisons de 10 mètres carrés avec des services communautaires autour de ça. Ils ont décidé de parce que la Cour les a obligés, puis c'est bien triste, fait que j'en conviens, qu'on soit obligé de trancher ce genre de questions via un tribunal. Mais ça a poussé la ville de Waterloo à dire, attends une minute, il faut trouver une autre alternative au camping. Alors nous, on a décidé de tester l'idée de petites maisons. Il y a eu les maisons de, comment s'appelle l'humoriste là?
Mike Ward.
Bon, ça n'a pas fonctionné. Mais il faut que les villes, dans le fond, se mettent dans un autre mode. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Luc, et Paul aussi, que les villes ont une capacité limitée d'agir. C'est pour ça que ça prend une volonté politique absolue. Québec, Ottawa, les villes, mais ça prend un leadership en quelque part qui s'exerce. Il faut que quelqu'un prenne le flambeau puis dise Ah, c'est fini l'itinérance sur notre territoire.
Là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Puis on ne le sent pas, ce leadership-là, ben Luc. On ne le sent pas.
Mais t'as raison que si le jugement menait à ça, ça serait une excellente chose. J'ai juste un doute que ça va se mener à ça.
On s'arrête pour la pause. Au retour, 67 % des Canadiens croient que le pays est brisé, selon un sondage léger dans le National Post.
La commission Normando-Ferrandaise.
Nathalie.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça, chers amis. Le Canada n'est pas brisé. Il est divisé, il est sous tension, comme n'importe quelle fédération, mais il n'est pas brisé. Un élément de contexte important, ce sondage est paru dans la une du National Post de samedi. En fait, cette question, elle vient d'une déclaration prononcée, répétée ad nauseam par Pierre Poilievre, qui affirme que le Canada est brisé. Alors, au National Post, on a voulu vérifier par un sondage léger qu'est-ce que les Canadiens pensent de cette affirmation de Pierre Poilievre, d'où le chiffre de 67 %. Mais il y a des nuances dans ce sondage. Les personnes qui ont été appelées à répondre devaient répondre « Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec l'énoncé suivant? » On dirait que tout est brisé dans ce pays. On ne dit pas que le pays est brisé. On dirait que tout est brisé dans ce pays. Et ce qu'on apprend, sans trop de surprise, c'est au Québec que cette impression que le Canada semble brisé, qui s'exprime le plus faiblement. 59 % des Québécois pensent que ont l'impression que tout est brisé au Canada, alors que c'est 74 % en Saskatchewan et Manitoba et 73 % en Alberta. Je suis pas étonnée de ce chiffre. Pourquoi? Parce que c'est sûr que les Canadiens ont composé avec un certain nombre de mauvaises nouvelles. La Banque du Canada, l'augmentation des taux d'intérêt, le bordel avec les passeports, le temps d'attente dans les aéroports. On peut pas dire les temps d'attente du côté de l'assurance-emploi. Mais est-ce que ce sondage dit, c'est là que c'est important de s'y attarder, c'est que derrière cette question, il y a une perception que les Canadiens ont que les priorités du gouvernement fédéral sont en décalage avec ce qu'ils vivent sur le terrain. Et dans ce sondage, on apprend que 68 % des Canadiens estiment que l'inflation, le coût de la vie et les taux d'intérêt est leur plus gros problème. En revanche, tenez-vous bien, seulement 28 % croient que le gouvernement fédéral considère ces enjeux comme une priorité. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau, qui est perçu comme un gouvernement de plus en plus loin des priorités du quotidien des Canadiens. Ça semble être une bonne nouvelle pour Pierre Poilievre. Maintenant, reste à savoir s'il réussira à capitaliser sur cette impression que les Canadiens ont que leur gouvernement est loin de leur priorité.
Luc. Moi, Nathalie, vu que c'est un jour qui finit en I, je me permets d'être pas d'accord avec toi.
Il y en a quelques-uns qui finissent en I.
Il y en a cinq cette semaine. Vas-y.
Donc, oui, le Canada est brisé en deux, crack, boom. Mais, de
crack
grâce,
boom, tu dis,
c'est ça, cassé, là. Tu sais, comme un bâton de hockey cassé en deux par un joueur qui a raté son slap shot. Mais, tout semble brisé, mais pas à cause de la crise des passeports. De grâce, la crise des passeports, c'est tellement égoïste, limité, circonstanciel. Ça concerne un tout petit nombre de personnes parmi les privilégiés de la société. Oui, je sais, c'est pas tout le monde qui est riche qui voyage, mais par rapport à ceux qui voyagent, c'est des riches qui voyagent. Ça, c'est une chose. Et ensuite, cette idée-là que, tu sais, c'est à pleine page, là, avec la crise des passeports tous les jours, puis l'autre, t'allais à son hôtel, finalement, l'hôtel était fermé, puis l'autre, c'est qui ont été perdus dans l'avion. Je sais bien que le Canada est brisé, je suis d'accord, mais pas à cause de ça.
À cause de quoi?
Parce que il y a trois crises fondamentales qui se régleront pas. La crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre et l'inflation, parce que ces trois crises-là s'alimentent l'une l'autre et pour toujours. Et demandez pas à un agent immobilier si ça va se régler, là. Demandez pas à quelqu'un qui vous demande d'investir votre argent en bourse si ça va se régler. Eux autres vont vous dire ça va se régler. Oui, c'est une affaire. De la minute qu'il va arrêter de neiger, là, les gens vont commencer à magasiner pour des maisons, tout va bien aller. Ben non, il n'y a pas de problème. Mais non, l'inflation, ça va durer trois mois. Ça cause la guerre en Ukraine, ça cause de ci, ça cause de ça. Non. C'est fondamental. Là, ce qui est fondamental, c'est que la capacité de dépenser a dépassé la capacité de travailler. On n'est pas capable d'offrir les services à la population, et en particulier en éducation et en santé, et ça ne se réglera jamais. Parce que, ou du moins, ça va prendre des années et des modifications fondamentales de notre économie. Parce que les gens ont... Il y a un refus de travail. Le refus de travail, c'est pas tout du monde qui se lève le matin et dit « moi, je veux pas travailler ». C'est des gens, par exemple, qui prennent leur retraite plus tôt. C'est des gens qui restent plus longtemps chez leurs parents. C'est des gens qui déménagent en région parce qu'ils se disent « je suis pas capable de me payer un logement en ville ». Déménagent en région, vont accepter un travail moins intensif en termes de jours, moins intensif aussi en termes de productivité. Ils vont dire « bon, ben, je vais travailler... » au dépanneur local ou au home depot local ou dans l'industrie du tourisme plutôt que de travailler dans un hôpital à Montréal. Et ça, ça retire des gens du marché du travail en termes de pourcentage d'efficacité, pourcentage de jours, nombre de jours travaillés. Et ça va pas se régler parce que si tu ne peux pas te loger, tu vas pas travailler. Ça, c'est la base de tout. Et les jeunes aujourd'hui peuvent pas se loger. Le modèle, je travaille pendant 5 ans, j'accumule un petit fonds, j'investis dans une maison. Cette maison-là devient le siège de ma famille. Quand ça va être payé, ça devient une forme d'épargne pour moi. Ce modèle-là, il est brisé.
Mais tous les exemples que tu donnes réfèrent à notre capacité de nous adapter à des nouveaux enjeux qui émergent dans notre société. Puis c'est pas l'affaire uniquement du Canada, là. C'est dans tous les pays de l'OCDE. Enfin, c'est comme ça. La pénurie de main-d'œuvre, moi, je suis pas si pessimiste que toi, Luc, parce que j'entendais hier encore Guy Cormier, le grand patron des Jardins, tout le monde en parle, qui disait, pour la pénurie de main-d'œuvre, on en a encore quoi pour peut-être une dizaine d'années. Mais, tu vois, on revient à cette idée, parce que quand tu dis que le Canada est brisé, pour moi, ça veut dire qu'il y a un point de non-retour. Mais on n'est pas dans cette dynamique-là, là. À ce que je sache, pour moi, là, un Canada brisé, c'est par exemple les Albertains qui lèveraient la main puis qui affirmeraient dans le cadre d'une marche référendaire, on veut quitter le Canada, puis ça se matérialiserait. Même chose pour le Québec. Pour moi, ce serait ça, le Canada brisé. Un Canada fractionné sur le plan politique. Bon, il est peut-être fractionné sur le plan linguistique, mais malgré tout, depuis 1867, on arrive, malgré les hauts et les bas qu'on vit, à s'entendre. Je suis tombée sur un sondage fait par Environix et l'Institut de politique publique et d'autres organismes en juillet 2020. Et tu vois, la question, c'était le fédéralisme canadien représente-t-il plus d'avantages que de désavantages pour votre province ou votre territoire? Alors, ceux qui sont plutôt d'accord, complètement d'accord ou plutôt d'accord, au Québec, en 2020, on était 40% à répondre qu'on était plutôt d'accord et complètement d'accord, alors qu'en 2001, c'était 54%. Et c'est à peu près comme ça, cette tendance se matérialise à peu près, on la constate dans à peu près toutes les provinces. Ce qui est de plus en plus évident, c'est que cette espèce d'attachement ou de confiance qu'on a, la capacité du Canada de faire une différence dans notre vie, il semble s'effriter. C'est pour ça qu'un Pierre Poilievre carbure à cette pas juste à cette insatisfaction momentanée, mais à cette espèce de tendance qu'on constate depuis déjà quelques décennies. Ouais. Mais moi, Luc, un Canada brisé, c'est le Québec qui claque la porte, puis c'est terminé, là. Tu sais, c'est pour moi, c'est.
Ouais, mais moi, je ne vois pas en termes fédéralistes, là, où.
Ouais, mais c'est ça, clair. Quand même, le Canada, c'est une fédération.
Oui, mais c'est clair qu'il n'y aura plus jamais de projet indépendantiste, pas avant des décennies, puis il n'y aura pas. Le Canada ne sera pas brisé comme tel. C'est le système qui est brisé, l'économie qui est brisée. Et ça.
Il n'y a pas une perte de confiance envers les institutions tout court. C'est-à-dire que.
Aussi, ben oui.
C'est
ben
du monde
oui.
qui décroche.
Le convoi de la liberté,
totalement.
Paul,
moi, première perte de confiance, là, je ne crois pas aux chiffres sur l'inflation. Cette affaire-là, là, que l'inflation est à 6 %, là, mais pas dans mon supermarché à moi, en tout cas. Dans mon supermarché, il n'est pas à 6 %,
il est
jamais dans le plafond, là. J'en reviens juste pas, tu sors. Puis tout le monde le dit, là, tu sors avec un sac. Tu vois, comment ça que ça coûtait ça? Ça n'a aucun bon sens, là. C'est pas 6 % l'inflation. En tout cas, on prend en parler longtemps.
Merci à tous les deux. Bonne journée. 9h16. La 13, Marc.
C'est 23.